Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
fruits et légumes au jardin d'Éden.
Salut Marc.
Salut Samuel. Alors aujourd'hui c'est salade de fruits ?
Pardon ?
Bah oui, le titre de l'émission c'est fruits et légumes au jardin d'Éden.
Ah, en fait on va parler de Midrash.
Midrash, c'est un fruit exotique ?
Mais non Marc, le Midrash, faisant des compilations d'enseignements oraux et de commentaires des livres bibliques qui n'ont pas trouvé place dans les recueils du Talmud. On y trouve aussi des proverbes, des contes et des fables.
Ah, donc on va raconter des histoires juives alors ?
Oui, c'est ça.
Bah en quoi ça va nous intéresser ?
Comment ça, en quoi ça va nous intéresser ? La connaissance de la tradition juive peut nous permettre une meilleure compréhension du Nouveau Testament. Pour reprendre une expression de Roger Le Déo, les chrétiens ont hérité d'une Bible interprétée, et je rajouterai interprétée par les juifs.
Ah bon ? Et le pape, il dit quoi ?
Il déclare que la lecture juive de la Bible est une lecture possible, qui se trouve en continuité avec les saintes écritures juives de l'époque du Second Temple, une lecture analogue à la lecture chrétienne, laquelle s'est développée parallèlement. Il ajoute que les chrétiens peuvent apprendre beaucoup de l'exégèse juive pratiquée depuis plus de 2000 ans. En retour, les chrétiens peuvent espérer que les juifs pourront tirer profit des recherches de l'exégèse chrétienne. C'est un fait, la simple connaissance de l'Ancien Testament, pourtant indispensable, ne peut à elle seule faire apparaître toute la richesse des évangiles et des écrits apostoliques.
Bah pourquoi ?
Parce que le Nouveau Testament est peuplé d'allusions qui nous échappent, faute d'une connaissance suffisante des traditions dont leurs auteurs étaient imprégnés.
Ok, donc tout ça pour dire qu'on va parler d'histoires juives qui vont éclairer le Nouveau Testament.
Ou l'Ancien.
Ou l'Ancien ? T'as des exemples ?
Oui. Prenons la Genèse. Allons faire un tour dans le jardin d'Éden. Nous y retrouvons Adam et Ève, qui, souviens-toi, peuvent faire ce qu'ils veulent, si ce n'est manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ouais, et c'est là que le serpent arrive et convainc Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à son tour, elle le fait manger à Adam.
Et on avait vu que le fruit n'était pas une pomme. Dans la Bible, on fait référence à un fruit, en hébreu, tapoua. Alors, au départ, ce n'était qu'un fruit. Si on prend le texte Genèse, chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'entendement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes.
Et c'est là qu'apparut la faille dans la création de Dieu, l'homme. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden pour avoir mangé un fruit défendu.
Et c'est là qu'arrive le Midrash. Je lis Midrash Genèse Rabba, chapitre 5, verset 9. Tu vas voir que le style est un petit peu particulier, mais à la longue, on s'habitue. Le jugement s'ouvrit avec trois accusés et s'acheva avec quatre condamnés. Adam, Ève et le serpent furent accusés. Et la terre maudite avec eux, selon les mots « maudit soit le sol ». Genèse 3, 17, pourquoi la terre fut-elle maudite ? Réponse de Rabbi Yehuda Bar Shalom et de Rabbi Pinyas. Rabbi Yehuda Bar Shalom dit « Parce qu'elle désobéit à l'ordre qui lui avait été donné, le Saint béni soit-il avait ordonné que la terre verdisse d'arbres fruits donnant fruit. Tout comme le fruit, l'arbre devait être comestible. Or la terre n'en fit rien, la terre fit sortir l'arbre donnant fruit. » Le fruit était comestible, mais non l'arbre.
Donc le Midrash enseigne que c'est bien auparavant que l'arbre fruitier révéla une faille dans la création. La terre désobéit à Dieu avant l'homme.
Pour décoder cet enseignement, il convient d'abord de le situer. Contrairement à l'acte ou à la parole de création « que la lumière soit », Dieu s'adresse à la terre pour qu'elle produise. La nuance n'a pas échappé au Midrash. « Dame terre », suggère-t-il, refusa d'être bête et disciplinée. Elle avait le sens des responsabilités, la terre. Il lui fallait tenir compte des lendemains. Le bon Dieu, lui, est dans le ciel, mais ici-bas, c'est elle qui a la charge de l'intendance. Qu'arrivera-t-il quand l'homme, but ultime de la création, peuplera la terre ? Si les troncs sont fruits, les hommes n'hésiteront pas à couper dans les troncs, et bientôt, il n'y aura plus rien, ni arbres, ni fruits.
Elle avait bien raison, Dame Terre, parce que quand on voit l'état de la planète aujourd'hui, on peut se poser des questions.
Eh bien, à peine arrivés au jardin d'Éden, Adam et Ève mangèrent le fruit qui leur était interdit. Les efforts de la terre n'avaient servi à rien, à cause de la fortiture du premier homme. La voilà maudite par les hommes. « À cause de toi !» accuse Dieu en s'adressant à Adam. « Elle te sortira chardon et ivraie. »
Donc dès le départ, l'univers est imparfait, et la terre et l'homme désobéissent.
La nature de l'homme n'avait pas de sens dans un monde où le libre arbitre lui aurait été interdit. Mais aussi, il n'aurait pas été convié à parfaire l'univers. Au demeurant, à en croire le Midrash, Adam et Ève s'y exercèrent alors qu'ils étaient encore au jardin d'Éden, si l'on veut bien retenir l'enseignement de Rabbi Néhémia, selon qui le fruit défendu était une figue.
Une figue ? Ben voilà, après une pomme, une figue. La voilà notre salade de fruits. Et pourquoi donc une figue ?
Regarde bien le texte. Ayant découvert qu'ils étaient nus, Adam et Ève se sont fabriqués des ceintures de feuilles du figuier pour cacher leur nudité. C'est ce que dit le verset 7. Une feuille de figuier, c'est bien plus grande que la feuille de vigne chère au sculpteur.
Il dit ça, le Midrash, que la feuille de vigne, elle est trop petite ?
Non, ce genre d'explication n'intéresse pas du tout le Midrash. Mais pour Rabbi Néhémia, Adam et Ève se sont ceints de feuilles de figuier en vue de réparer le stigmate qu'ils lui avaient imprimé en mangeant son fruit. Le Midrash ne s'en tient pas là. Il se pose la question du lecteur de ces lignes. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas indiqué quel était le fruit défendu ? Le bon Dieu s'y refusa, dit-il, pour ne pas porter tort à la création.
C'est amusant parce que, tu sais, le figuier est présent dans de nombreuses croyances. Par exemple, en Inde, c'est l'arbre de Vishnu. Puis en Grèce, c'est aussi celui de Dionysos. En Égypte, c'est l'arbre de l'initiation, de la connaissance. Et puis en Chine, c'est aussi l'arbre de Bouddha. D'ailleurs, à Rome, c'est l'arbre sous lequel est né Rémus et Romulus.
Marc ne nous fait pas une salade de religion.
Mais le figuier, on le retrouve dans le Nouveau Testament ?
Eh bien oui, tout à fait. Par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 13. Lisons ensemble. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
Prenant alors la parole, il dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent.
Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple.
Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. »
Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine.
Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. »
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. »
Mais Samuel, pourquoi Jésus lui fait périr le figuier ? Dans l'évangile de Marc, il est précisé que Jésus se dirigea vers cet arbre alors que ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi dès lors Jésus espérait-il trouver des fruits ? Et pire, pourquoi avoir blâmé cet arbre ?
L'histoire se passe après l'entrée de Jésus à Jérusalem, quand assis sur la monture du Messie, un âne, il fut salué par la foule au cri de « Hosanna ». Puisqu'il était le Messie, la malédiction qui frappait l'arbre depuis la faute d'Adam et d'Ève était assurément levée et le figuier devait produire ses fruits. Peut-être même était-il devenu le figuier fruit prévu à l'origine.
D'accord, donc le Midrash peut apporter un éclairage, une explication à certains textes du Nouveau Testament. T'as d'autres exemples ?
Alors, une tradition attestée dans plusieurs sources rabbiniques détaille heure par heure la création de l'homme le sixième jour. La faute, le jugement et l'expulsion du jardin d'Éden. Lisons. Le premier jour de Tishri fut créé l'homme. À la première heure, il vint à la pensée de Dieu.
À la deuxième, Dieu prit conseil des anges.
À la troisième, il le pétrit.
À la quatrième, il le façonna.
À la cinquième, il lui donna sa forme.
À la sixième, il lui insuffla une âme.
À la septième, il le dressa sur ses jambes.
À la huitième, il l'introduisit dans le jardin d'Éden.
À la neuvième, il lui donna le commandement. À la dixième, il pécha.
À la onzième, il fut jugé.
À la douzième, il fut expulsé. Dieu allait prononcer la sentence quand le Shabbat fit son entrée et se fit son avocat. Il dit devant le Saint, béni soit-il,
« Maître des mondes, pendant les six jours de la création, jamais personne n'a été condamné. Et c'est avec moi que tu commences ? Est-ce là ma sainteté ? Est-ce là mon repos ?»
Et par égard pour le Shabbat, l'homme fut sauvé de la condamnation à la géhenne. Lorsqu'il vit la force du Shabbat, l'homme voulut entonner une hymne en son honneur. Le Shabbat lui dit
« C'est à moi que tu chantes une hymne ? Moi et toi, chantons une hymne au Saint, béni soit-il. »
C'est pourquoi il est écrit « Il est bon de te rendre grâce au Seigneur. »
C'est le psaume 92. Je lis. Cantique, chant pour le jour du Shabbat. Tiens, c'est marrant, chant pour le jour du Shabbat, c'est donc un chant de remerciement pour le Shabbat ?
Eh oui. Et maintenant, on va chercher l'éclairage que ces textes peuvent avoir sur le Nouveau Testament. Le récit de la Passion dans l'Évangile de Jean commence et se termine par la mention d'un jardin. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. On voit ça en Jean chapitre 18. Et à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où personne n'avait jamais été déposé. Et c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Donc, un jardin au début et un jardin à la fin.
Oui, et du jardin d'où il vient d'entrer, Jésus est aussitôt expulsé pour être jugé et condamné. Le sort qui lui est réservé est donc à première vue celui du premier homme.
Ouais, mais il y a quand même d'énormes différences.
Tout à fait, et lesquelles ?
Bah, Jésus, il est condamné alors qu'il est innocent.
Oui, l'innocent a pris sur lui le châtiment qui aurait dû frapper les coupables. Jésus, et c'est là la seconde différence, a été effectivement mis à mort, alors que le premier homme avait bénéficié d'une mesure de grâce.
Oui, mais il avait été expulsé.
Tout à fait. Le Talmud dit « L'homme n'a pas passé une nuit dans les honneurs, mais Jésus, quant à lui, est mis à mort, puis réintroduit dans le jardin avant le Shabbat. » En Jésus, l'homme réintègre le jardin avant l'arrivée du Shabbat. Jésus est à la fois le Shabbat, grâce à qui l'homme est sauvé, et celui qui introduit le pécheur pardonné dans ce repos dont l'accès était interdit au pécheur et qui demeure pourtant l'objet de l'espérance du croyant.
Donc le Midrash nous éclaire sur les différences entre Jésus, le nouvel Adam, et l'ancien Adam.
Oui, et on a dans l'évangile de Luc une leçon analogue exprimée en des termes différents. Au pécheur qui est crucifié avec lui, Jésus annonce « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». C'est-à-dire dans ce jardin dont le premier homme avait été expulsé le sixième jour. Et que le pécheur gracié va réintégrer, avec Jésus, avant le Shabbat.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine.
De combien de pierres était composé le temple de Jérusalem ?